Bon, on m'a dit de vous dire un mot, mais malheureusement pour vous, j'en dis souvent plusieurs. Et le problème est de me faire taire. Donc, écoutez, je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente d'être aujourd'hui parmi vous. Et c'est vrai que le très bon côté de Brive, c'est vous. C'est-à-dire, c'est ces lecteurs, ces gens qu'on rencontre, ces rencontres vraies. Le terme paraît un peu, comme ça, un peu vite dit, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on avait envie de venir. Alors, le thème qu'on a choisi, je vous le dis, quand on nous a dit qu'est-ce que vous allez faire comme thème, voilà, qu'est-ce qui vous plairait. Alors, comment est-ce qu'on peut dire cet intérêt pour les faits divers, j'ose pas aller plus loin que ça, parce que sinon tout de suite ça fait un peu psychopathe. Mais pour moi, c'est une des choses les plus intéressantes en journalisme et par ricochet en littérature. Et donc, j'ai invité deux personnes qui ont écrit des livres qui, pour moi, sont parmi les. Alors, quand j'ai dit les meilleurs de la rentrée, ils vont faire la gueule, mais c'est vrai. Donc, je les conseille vivement. Donc, Antoine Albertini et Solano, La Voix Rauque, que j'ai adoré. Enfin, c'est pas le dernier, mais ça. Et. On s'est rencontrés ici même à Brive, Olivier Sérac, et c'est vrai que c'était... il a commencé à parler des faits divers, c'était pas du tout prévu, on était là en train de boire un coup, vous voyez la scène, hein, vous connaissez ça par cœur, et ce qu'il racontait sur les faits divers est quelque chose qu'on raconte rarement. Alors j'ai pas dévoilé son témoignage, mais il y avait quelque chose de très, très intéressant sur le rapport du journaliste et du fait divers qu'il a à traiter. Voilà, donc maintenant je laisse la parole aux autres. Ça y est, vous êtes débarrassés.
Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Alors vraiment ravie de vous accueillir tous les quatre. Vous êtes tous les quatre journalistes. Vous avez écrit, enquêté, publié. On va parler effectivement du fait divers et je crois qu'on est dans la bonne ambiance aussi avec l'averse. Je vais peut-être commencer par... une citation de vous, Florence, où vous dites « J'ai vu la place des faits divers évoluer dans l'information avec les années. Comme le polar, ils étaient considérés comme un cran en dessous. C'était un appétit un peu honteux. Maintenant, c'est l'inverse. » Donc, le fait divers était considéré comme moins qu'une information.
Non, c'était pas en termes de moins qu'une information, parce que ça a toujours été quelque chose de très couvert par les journaux. Mais... Le premier emploi de journaliste que j'ai eu était à Libération. Pas d'année, non, je ne vous donnerai pas d'année. Et donc, je suis rentrée au service des informations générales. Et mon père, qui n'était pas du tout là-dedans, qui était fonctionnaire, me dit « Mais c'est quoi les informations générales ?» Alors, mornement, je dis « C'est la police, la justice, les faits divers. » Je l'ai vu pâlir. Il m'a dit « J'ai cru que tu deviendrais critique littéraire. » Donc, ça vous donne le niveau qui était de traiter des faits divers. C'est-à-dire, c'était vraiment des choix. On disait les chiens écrasés, et c'était littéralement ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que comme le polar, ça a acquis une autre dimension. Alors, je pense que ça l'a acquis aussi par la manière de le raconter et par la manière qu'ont les journalistes d'enquêter. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les journalistes ont pris pour monnaie comptante, les PV de police, l'enquête judiciaire, etc. Or, aujourd'hui, il y a un réel travail journalistique autour des faits divers. Et j'ose pas dire qu'on a plus honte d'ouvrir le journal à la page des faits divers, mais quand on faisait les tests pour savoir qu'est-ce qu'on lit en premier dans un journal, systématiquement, la page étranger. Alors, on dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'étranger ? J'ai oublié, mais par contre, dans l'affaire Grégory... Donc, c'était vraiment ce qu'on lisait et qu'on n'osait pas avouer, en fait, pour les lecteurs aussi.
Alors, l'affaire Grégory Thibault-Solano, vous en avez parlé dans un de vos livres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être je vous donnerai aussi la parole à tous les quatre par la suite, comment est-ce qu'on couvre un fait divers ? Comment est-ce qu'on suit ? Pendant combien de temps ? À quel point on est immergé ? Et comment est-ce qu'on ressort de...
Alors, c'est pas un fait divers, hein, l'affaire Grégory.
Oui.
C'est le fait divers.
Y a une différence entre couvrir un fait divers au quotidien, en presse régionale ou en presse nationale, en tout cas en presse quotidienne, qui est un suivi plus au coup par coup, info après info. Et il y a un autre traitement qui est tout de même celui que je préfère, qui est sur le long terme. Mais c'est quelque chose en fait, qu'on va suivre plus sur son temps personnel presque, parce que si on est réduit aux horaires de travail, on ne peut pas vraiment s'immerger dans l'affaire. L'affaire Grégory, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler dessus en 2015. Il y avait déjà eu 17 livres à ce sujet-là. Bon, c'était un petit peu intimidant, mais j'avais le soutien d'une maison d'édition. Mais ça m'a pris énormément de temps de rien que de relire le dossier. Et ensuite, il faut rencontrer les gens, aller sur place, etc. Mais c'est, pour raconter un fait divers dans sa profondeur et sur le long cours, c'est forcément quelque chose qui se fait en dehors du temps de travail, pendant les vacances, les soirées, les jours fériés, parce qu'on s'immerge dedans, on est un peu dévoré par le fait divers. Et,
c'est ouais. Le titre de votre livre.
Ah oui, c'est le titre d'un roman que j'ai fait après. Et donc voilà, pour moi, le traitement du fait divers le plus intéressant, c'est celui qui dépasse le cadre professionnel et pour lequel on se prend de... Je ne vais pas dire de passion, justement, ouais, c'est le mot que tu voulais éviter, mais pour lequel on se plonge dedans et qu'on n'oublie jamais après.
Vous êtes d'accord, Albertini? Je vous vois...
Ah, moi, j'ai absolument rien à ajouter sur au propos de Florence et Thibault. Oui, quand on se jette dans quelque chose comme ça, à condition de vouloir vraiment le faire et d'aller jusqu'au bout. Alors moi, pour le coup, j'ai aussi tâté de la matière historique qui est cauchemar. Oui. Pour le coup, c'est cauchemardesque. Il faut qu'on s'apprête et qu'on sache dans quoi on s'engage, notamment... moi, pour des précédents bouquins ou même des affaires que je suivais quand j'étais en Corse pour Le Monde et même certaines encore aujourd'hui, notamment quand je rentre chez moi à Bastia, que je vais déjeuner avec des amis ou que je dîne avec mes fils, je sais qu'en plein milieu de la conversation, n'importe quel mot ou n'importe quelle sensation ou n'importe quelle évocation peut me faire basculer dans le fait de songer à ce que je suis en train de faire. Et en gros, on me dit au bout d'un certain temps, enfin, on me l'a déjà dit, bon, on a compris avec ton affaire, fous-nous la paix, là, on est en train de dîner. Mais ça revient systématiquement. Enfin, j'exagère à peine, je ne vais pas dire que c'est une espèce d'obsession, que c'est le cliché du journaliste avec le grand paperboard chez lui qui épingle les photos des victimes. Mais c'est sûr qu'on s'engage dans une quête qui est à la fois sur le fait lui-même et personnel, qui est, on va revenir, dévorante.
Oui, c'est le terme qui revient assez régulièrement et je vais vous donner aussi la parole, Olivier Zérac, merci d'être là. Donc, vous êtes journaliste à Brive et vous avez été aussi journaliste à Auxerre, vous avez couvert beaucoup de faits divers et puis effectivement on s'est eu au téléphone justement pour échanger. Vous présentiez un témoignage très émouvant de votre place aussi de journaliste et puis de l'humain qu'il y a derrière le journaliste quand on couvre un fait divers. Aussi le fait que l'information peut parfois être... c'est plus, les journalistes n'ont plus accès à l'immédiateté de l'information parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les gens qui sont déjà sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de votre place de journaliste et d'homme pour,
C'est qu'un fait divers, en gros, on est prévenu par la police ou les pompiers en règle générale qu'il y a eu un accident quelque part et concrètement, on n'est pas, c'est à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Donc on se réveille d'un coup et il y a une adrénaline qui monte et puis il y a un côté un peu chouette, hein, quelque part, de se dire il se passe quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? On n'en sait à ce moment-là rien. Et puis vous débarquez en pleine nuit sur un accident de la route terrible et là d'un coup, en fait, il faut savoir prendre du recul, savoir se poser, savoir ce qui s'est passé, essayer de prendre du temps. Et ensuite vient le moment de l'écriture qui est souvent dans la foulée parce que maintenant il y a les sites internet et qu'il faut alimenter le site internet très rapidement. Et il n'y a pas ou peu de barrières, en fait, enfin, vous prenez tout dans la figure et c'est rude quand même, parce que quand vous travaillez en plus en local, ce sont des personnes que vous êtes peut-être amené à rencontrer le lendemain, des parents qui vont vous appeler en vous disant « Mais non, mon fils ne roulait jamais trop vite », et pourtant, il y a des éléments de l'enquête qui montrent que la vitesse était là, qu'il avait bu de l'alcool ou qu'il y avait des stupéfiants. Et vous avez une maman au téléphone le lendemain qui vous dit non, mon fils, c'est pas de sa faute l'accident de voiture. Quoi. Et là, c'est des choses en fait, que vous prenez vraiment dans la figure et il faut jamais vraiment réussir en fait, à prendre le recul nécessaire pour essorer l'éponge, entre guillemets, de prendre oui, du recul encore une fois et respirer tout simplement. Donc c'est ce temps long dont vous bénéficiez en fait, pour l'écriture de romans ou même d'enquêtes, c'est là-dessus en fait, qu'on va pouvoir prendre justement beaucoup plus de recul et s'éloigner un petit peu de l'émotion d'un moment ultra violent.
Alors on a fait du temps court hein, aussi.
Je te rassure. Mais c'est vrai, quand on en avait parlé l'autre fois, c'est vrai que ce que je trouvais intéressant dans ce que tu racontais, c'est en fait, très souvent, quand on couvre des faits divers, quand on en parle, etc., ce qui nous revient, ce qui nous dit, ouais, mais les journaux, ça fait vendre du papier, c'est cynique, etc. Et or, la discussion que nous avions était absolument l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, tu aurais préféré tout faire sauf ça. Et c'est
oui,
d'ailleurs
presque.
Ce que tu as fait.
Oui, j'ai quitté les faits divers, j'ai quitté ce journal et je suis dans une radio associative aujourd'hui à Brive.
Oui, c'est ça. Et tu racontais aussi cette histoire à propos de l'affaire de Nordal-Lelandais, mm-hmm. où tu avais été confronté alors, à tout à fait un autre...
Donc là, j'étais donc à Bourges, où je suis arrivé en fait en décembre. Et en gros, une semaine après mon arrivée, le parquet de Grenoble le déclarait, enfin expliquait que le corps de Arthur Noyer, qui était donc un caporal berruyer, qui était porté disparu depuis le mois de juin de mémoire, avait été retrouvé. Et en gros, depuis le mois de juin, les parents d'Arthur avaient déployé toute leur énergie pour essayer de retrouver leur fiston. Et ils avaient appelé tout le monde, tous les médias, BFM, etc. Et en fait, seuls les journaux locaux, c'est-à-dire le Berry Républicain à Bourges et le Dauphiné Libéré dans les Alpes, mais aussi les radios locales, hein, ont fait leur boulot, en fait, d'essayer de donner la parole aux parents, mais les médias nationaux ne s'en sont pas emparés. Et donc moi, là, j'arrive donc dans cette situation-là, avec cet objectif. On me dit, en fait, maintenant, il va falloir, Olivier, que tu ailles voir les parents, parce que leur fils a été retrouvé. Je ne les connais absolument pas, ça fait qu'une semaine que je suis là. Je découvre un petit peu vite fait l'affaire, mine de rien. Et c'est un collègue qui m'amène jusqu'à la maison des parents d'Arthur, et je me vois très bien commencer à sonner en me disant, pourvu qu'ils n'ouvrent pas. Et ils n'ont pas ouvert. Et franchement... ouf, parce que humainement, je ne savais pas quoi leur demander. Enfin, c'était absurde. Comment vous sentez-vous? Votre fils a été retrouvé. Ça fait des mois que vous le cherchez. Et en fait, il est mort, quoi. Concrètement, qu'est-ce que je vais raconter derrière? Donc, il y a eu du temps. Les fêtes de Noël se sont passées, etc. Puis, il y a eu un moment, en fait, qui a été construit concrètement avec les autres collègues de la presse régionale pour réunir les parents et les journalistes et pour qu'ils disent une seule fois... ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu, etc. Et c'est, encore une fois, une histoire de temps, histoire de ne pas prendre des grosses baffes dans la figure, quoi.
Alors, par rapport à un point que vous disiez juste avant sur les médias nationaux vs les médias locaux et régionaux, vous me voyez venir. Alors, Thibaut Solano, le roman que vous présentez ici, qui s'appelle « Les Dévorés », est un roman dans le sens fictionnel, donc c'est imaginé, mais ça prend place à Clermont-Ferrand. Et il s'agit de Simon Magny, donc qui va se retrouver à gérer des meurtres dans la ville de Clermont-Ferrand à l'approche des fêtes de Noël. Il y a la pluie qui nous aide à nous mettre dans l'ambiance. Donc on s'immerge facilement dans cette ambiance un peu presque mystique, parce qu'il y a une histoire de loup à un moment. Mais alors aujourd'hui vous travaillez pour la presse nationale, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne, mais vous avez travaillé un moment à Clermont-Ferrand, et vous faites comprendre que les journalistes parisiens qui viennent sur Clermont-Ferrand pour couvrir le même fait divers que Simon Magny, ont droit presque à plus d'égards, voire ont du mépris pour les journalistes locaux. Et c'est quelque chose que vous avez aussi vécu, il me semble. Alors je vous laisse peut-être en dire un mot.
Dans le roman, le personnage est journaliste fait diversier, c'est-à-dire chargé des faits divers en presse régionale à Clermont-Ferrand. Pas à la montagne, puisque j'ai travaillé à la montagne, donc je ne voulais pas que ce soit la montagne, donc c'est un journal imaginaire qui n'a rien à voir avec la montagne.
Le journaliste n'a rien à voir avec toi.
Voilà, non plus. Et donc, effectivement, il se passe plusieurs crimes à ce moment-là, et forcément, ça attire des journalistes de la presse nationale, des chaînes d'infos, etc. Et le journaliste se rend compte que, d'une part, il est complètement transparent aux yeux de ses confrères de la presse nationale, et qu'ensuite, les avocats, qui sont ses sources habituelles tout au long de l'année, l'oublient eux aussi, parce qu'ils préfèrent parler à une chaîne d'infos ou à un grand journal national. Et du coup, il y a ce sentiment de mépris. Alors, évidemment, dans ce roman-là, je voulais en parler, mais ce n'est pas toujours comme ça. Mais il peut y avoir effectivement le fait que des avocats, les avocats aiment bien la lumière aussi, et donc trouvent que c'est plus rentable de parler à un média national qu'à un média régional. Le média régional apparaît tristounet à côté d'un média national qu'on voit passer qu'une fois par an, quoi. Donc voilà, donc ce sentiment-là peut être un sentiment injuste, d'autant que parfois on a beau labourer le terrain toute l'année, on se fait quand même piquer des scoops par la presse nationale qui est directement en lien avec des grands chefs nationaux. Donc voilà, y a... Mais bon, maintenant que je suis en presse nationale, la presse régionale, je trouve que ça va pas terrible.
Non, c'est pas vrai. T'as changé d'avis, oui.
Alors, Antoine Albertini, dans Un très honnête bandit aux éditions Jean-Claude Lattès, que vous venez de publier. Alors, ce n'est pas de la fiction, c'est l'histoire de Xavier. Alors, pardonnez-moi.
C'est un vrai fait divers, mais voilà. Fictionnalisé.
Fictionnalisé.
C'est une histoire, c'est plus que basé sur une histoire vraie.
C'est ça. Et donc, à la fin du 19e siècle, ça se passe en Corse. En fait, tous vos livres se passent en Corse, les quatre, je crois. Il y avait deux enquêtes et deux.
J'ai décidé que j'allais écrire sur les trucs que je connaissais le mieux.
D'accord.
C'est-à-dire que comme je suis né à Bastia, que j'ai grandi à Bastia, que j'y suis retourné y vivre 20 ans, etc., je pense que je connais beaucoup mieux la Corse que la Corrèze, même si on n'est pas très loin dans la prononciation. Donc tant qu'à faire, puis niveau fait divers, si vous voulez, je mets un coup de pied dans un platane, il m'en tombe 50. J'ai pas trop à galérer, j'ai qu'à me pencher. Puis alors, je peux même remonter à l'Antiquité si l'envie m'en, m'en prend. Donc tant qu'à faire, éternel régional de l'étape, j'écris sur ce que je connais.
Oh, bah, super, bah, ça fait un livre à la fois passionnant et, comme on dit, page-turner, on le lâche pas, avec une langue aussi qui est magnifique, je dois le dire. Alors, pourquoi alors dans ce cas-là? Pourquoi, si vous, il vous en tombe 5?
Pourquoi quoi?
Pourquoi ce fait divers-là?
Alors, ce fait divers-là, pourquoi? Parce que, pour plein de raisons, mais je vais essayer d'être très synthétique, sinon les gens vont s'endormir. La première, c'est la photographie de ce... Alors, pour faire très simple, c'est un jeune homme de 19 ans à la fin du 19e siècle qui est plus ou moins contraint de se venger de la mort de son père qui a été assassiné parce que les voisins ont retrouvé leur chien tué. Alors, je ne sais pas si ça suit. Mais encore, sur le 19e siècle, quand on retrouve son chien mort, ça peut être que le voisin avec qui on s'entend forcément très mal. Et il y a, je vous épargne le truc, mais le proverbe local qui dit « qui tombe au yag ou tombe à l'eau », c'est-à-dire qui tue le chien vise en fait le maître. Donc, quand un chien est tué, le propriétaire va tuer le voisin, comme ça, au moins, c'est dit, il se prémunit, et voilà, très bien. Alors, ça peut paraître choquant, ça s'inscrit dans tout un contexte très particulier, méditerranéen, évidemment, historique, etc. Bref, il devient bandit, il n'a rien pour devenir bandit, il a 19 ans, il est allé à l'école, ce qui n'était pas si courant que ça à l'époque, et en quelques mois, il va se muer en une espèce d'assassin féroce, complètement dingue, et qui va agréger autour de lui une bande de malfrats qui vont mettre une région à sac, enfin bref. Et il va être finalement appréhendé. C'est en quatrième de couverture, donc je ne spoile rien, je ne divulgage rien, pour parler en bon français. Il va finir par être guillotiné. Pourquoi cette affaire? Donc, parce que d'abord, quand j'ai vu la photo de ce bonhomme, dont je pense qu'elle représente l'archétype du bandit du 19e siècle, et même, j'allais dire, du bandit aujourd'hui, on pourrait même le confondre avec un djihadiste, c'est-à-dire la barbe fournie, le regard très noir, etc., ça m'a véritablement happé. Mais l'intérêt, j'ai commencé comme ça à m'y intéresser sans plus, l'intérêt est vraiment venu au fil du temps, c'est-à-dire que ça prend place à la fin du 19e siècle en Corse, à une époque où la France connaît de profonds bouleversements, à une époque où la Corse connaît elle-même de profonds bouleversements et où vont même se fixer les stéréotypes sur la Corse qui continuent jusqu'à aujourd'hui, parce que à la fin du 19e siècle, tout auteur français qui ne vient pas faire un tour et raconter ce qu'il voit en Corse rate un truc. Donc ça commence par Mérimée, et ça finit par Pierre Loti, et dans l'intervalle, tous les grands écrivains français, à l'exception de Zola, vont venir en Corse raconter ce qu'ils ont vu. Alors évidemment, ce qu'ils ont vu, c'est toujours la même chose. Des individus petits, rablés, Maupassant écrit « velu jusque dans les yeux », ce qui est assez sympa.
On le constate, cela dit.
Voilà. Niveau pilosité, vous observerez qu'en un siècle, les choses ont bien changé. Et pour une fois, je suis sorti du traitement de faits divers purement contemporains, etc., Et je me suis intéressé à quelque chose d'historique avec beaucoup d'implications à la fois littéraires, philosophiques, sociales, économiques, Comme ça, je donne vraiment l'envie à toute personne de vouloir acheter le bouquin en racontant un truc aussi chiant. Mais parce que ça décrit aussi les rapports entre... J'espère fournir des clés de compréhension des rapports entre la Corse et le continent. Et pour conclure, j'écris aussi sur le 19e en me rendant compte avec effroi que sur le plan de la violence, ça a certes baissé en volume, mais pas vraiment en intensité, qu'en fait, il y a des invariants qui continuent jusqu'à aujourd'hui. En gros, c'est aussi une manière de parler, de donner des clés de compréhension, malheureusement pour la Corse d'aujourd'hui.
Alors, il y a l'expression « prendre le maquis ». Donc ça veut dire devenir bandit. En fait, aller, en vrai, ça veut dire littéralement aller dans le maquis, se cacher. Mais on condamne au banditisme quiconque prend le maquis, en fait.
Bah oui, vous, en fait, à l'époque en Corse, je vais vous donner un simple chiffre. L'arrondissement de Sartène, il y a 4 arrondissements en Corse à l'époque. L'arrondissement de Sartène, c'est 10 000 habitants. Il y a 50 homicides par an. Donc essayez de faire le ratio. C'est-à-dire que ça riflait quand même pas mal. Je veux dire, les artisans les plus fortunés, c'était les ébénistes qui fabriquaient les cercueils. C'est-à-dire, vous aviez une fabrique de cercueils... Vous n'allez pas vous poser de questions pour l'avenir de vos enfants. Enfin, sauf si vous étiez dans la vendette. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et effectivement, oui, prendre le maquis, c'est devenir bandit. Mais on pouvait prendre le maquis pour toutes sortes de raisons. Et il y a des gens, quand je dis qu'ils y étaient contraints, ils étaient contraints parce que si vous refusiez de vous venger après un affront, vous, socialement, vous n'existiez plus, en fait.
Mais d'ailleurs, Xavier, en fait, il ne voulait pas, à la base, se venger au début.
Non, c'est un personnage qui...
Et vous expliquez comment il se transforme.
Qui ne veut pas. Et sa mère se retrouve chef de famille seule. Mais je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Hein. D'accord. Se retrouve chef de famille. Et comme elle refuse de donner dans la vendette, de demander à ses deux fils de venger leur père, etc., et ben, socialement, elle s'efface. C'est-à-dire que dans le village où ils sont, qui s'appelle Moratello, à côté de Porto Vecchio, comme elle refuse de sacrifier à la tradition pluriséculaire de la vendette, elle n'existe plus et elle perd toute surface sociale. Et c'est ce qui poussait aussi les gens à se venger, parce que quand vous êtes paysan pauvre, vous n'avez déjà pas grand-chose, si en plus vous perdez l'honneur, il ne vous reste plus rien, quoi. Et c'est ce qui, en fait, entraînait ce cycle lancinant de la vendette, de la vengeance, et chaque fois, vous mettez une pièce dans le jukebox... Vous tuez le cousin, qui va à votre tour tuer votre neveu, qui va, etc., etc., etc.
D'ailleurs, l'accusé pouvait en procès dire qu'il avait fait ça par orgueil et être acquitté. Ça vous l'expliquait très bien. Enfin, le livre est très fourni, très montre la complexité de la Corse aussi à ce moment-là au niveau des intrigues politico avec le banditisme, etc. Je vais passer à Thibaut.
Oui, il est temps.
Je vais passer à Thibaut avec les dévorés. Une petite question un peu générale. Vous avez écrit deux récits journalistiques tirés de faits divers réels. Donc, Les disparus de Perpignan et sur l'affaire Grégory. Le fait divers Grégory. Et puis, vous êtes passé à la fiction. Pourquoi ?
Pour respirer un peu. Enfin, d'abord parce qu'on l'a proposé. Et ensuite, pour respirer un peu. Les deux premiers livres, qui étaient sur des affaires évidemment un petit peu lourdes, étaient difficiles à rendre. En fait, y a un moment terrible, c'est quand l'éditeur ou l'éditrice vous dit « Bon, bah là, c'est bon, ça va partir à l'impression, on prend le manuscrit, on ne peut plus retoucher. » Et c'est à ce moment-là qu'on se réveille la nuit et qu'on se dit « Pourvu que je n'ai pas écrit une grosse connerie à un moment donné. » Et on commence à tout relire la nuit. Alors que c'est idiot, puisqu'on ne peut plus retoucher rien du tout. Donc si jamais on trouve une erreur ou une bêtise, trop tard. Donc, et pourtant, on le fait quand même, et on commence à tout relire. Et en fait, donc, c'était très... j'ai trouvé ça difficile à vivre. Et puis en plus, y a évidemment les familles de victimes qui vous lisent. Et ça, vous ne pouvez pas contrôler ni prévoir comment elles ressentiront ce que vous avez écrit. Et pas seulement pour des raisons de choses factuelles. C'est simplement parfois un mot à la place d'un autre peut créer de grands dégâts. Le premier livre que j'ai fait sur les disparus de la gare de Perpignan, qui était une affaire de tueur en série survenue dans les années 90, mais résolue en 2014, par exemple, le jour de la sortie, le soir, le père d'une des victimes m'appelle et me dit des mots très forts en me disant vraiment merci. J'espère que les frères de la victime garderont le livre sur leur table de chevet. Enfin, vraiment magnifique, quoi. C'était mon premier livre. Donc, et puis la mère, par contre, elle ne veut plus me parler. Donc, et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ni prévoir comment ce que vous avez écrit va être reçu par des familles qui ont connu le pire, c'est-à-dire la mort criminelle de leur enfant. Et donc, passer à la fiction m'a permis de prendre une bouffée d'air par rapport à ça. Et puis l'autre raison, c'est aussi parce que parfois, on peut tordre un peu un fait divers pour lui faire dire des choses sur la société, sur la politique, qu'il ne dit pas vraiment. Et on se trompe. Et du coup, d'imaginer l'histoire, même si c'est inspiré un peu de faits réels parfois, ça permet de dire ce qu'on veut et d'être... c'est la liberté, en fait, quoi. C'est ça le gain du roman par rapport au livre journalistique. C'est simplement la liberté.
Et Florence, il me semble que vous disiez que le roman, vous n'étiez pas forcément prête à écrire un roman, je veux dire, dans le sens fictionnel. Vous, la liberté, vous la trouvez dans votre façon. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup pour sortir vos enquêtes. Je pense à L'Inconnu de la Poste, publié aux éditions de l'Olivier, qui a eu un immense succès. Il y a eu aussi le Kéouistram, qui n'est pas du tout un fait divers pour le coup, mais plutôt une immersion... dans les conditions des travailleurs. Mais pour revenir à L'Inconnu de la Poste, justement, ça a été un travail de combien de temps, une enquête de combien de temps?
Alors, c'est difficile à quantifier parce que je l'ai faite un peu en saut de puce au début, donc pendant des années, et ensuite j'ai pris une année sabbatique, donc je ne sais pas comment comptabiliser. Mais le très particulier de cette histoire-là, c'est de L'Inconnu de la Poste, c'est je vais partir depuis le début, comme on dit dans la phrase. Je suis au journal, on est au mois d'août, à peu près. Et donc, au mois d'août, au journal Le Monde, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe au mois d'août en France, sur les lieux de travail, c'est calme. Donc, vous avez les pales du ventilateur, les pieds sur le bureau, le téléphone très calme, très voilà, silencieux. Et une personne appelle néanmoins et dit, voilà, bonjour, je fais du casting de cinéma. Je dis, ah bon, sincèrement écoutez, je fais rien cet après-midi. Non, et j'ai un ami qui habitait un village dans l'Ain et qui est acteur, que j'avais casté quand il était jeune garçon, et qui est accusé d'un meurtre. Et comme je suis son ami, je suis persuadée qu'il est innocent. Alors, quand vous dites ça à un journaliste, il est persuadé de l'inverse, bien sûr. Donc, je me dis, ouais, c'est ça encore. Et elle me dit, allez voir, je vous assure, ça vaut la peine. Et n'ayant rien sur mon agenda, vu la période estivale, je me rends dans ce village. Et alors, c'est un village de montagne, c'est assez beau, c'est des montagnes très encaissées, et avec ce côté taiseux qui est à la montagne, comme ça, où vous sonnez à la porte, personne ne répond trop, enfin, c'est pas facile, c'est un peu ce que tu racontais avec les parents de l'adjudant Noyer. Et donc, je commence à regarder, et en fait, je regarde le dossier, je me dis, mais si ça se trouve, cette dingue a raison, il est innocent. Et donc, je me retrouve à traiter un fait divers où vous avez un acteur à la dérive, un type avec une vie un peu fracassée. Vous allez dire, c'est le cas de tous les acteurs? Non. Mais en tout cas, lui, c'est un peu son côté. Il est parfois un peu SDF. Et, vous voyez, c'est le genre à s'asseoir. Il y a un banc public, c'est un village de 3000 habitants. Il y a un banc public qui trouve le moyen de s'asseoir avec une canette, un chien à ses pieds et à parler très fort. Ça ne se fait pas dans ce village-là. Et donc, il est là, il tranche tout à fait. Il vient d'un autre milieu, c'est le show business. Il distribue ses DVD autour de lui, etc. Et il y a en face de chez lui, s'est passé un meurtre. Et la postière a été assassinée. C'est littéralement en face de lui, c'est à la distance où nous sommes. Et donc, la tendance est toujours d'accuser celui qui ne vous ressemble pas, et donc c'est lui. Et donc, c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a accroché dans ce fait divers. Parce qu'il y a cette dimension-là, vous le demandiez, pourquoi celui-là, pourquoi ce fait divers-là? Parce que tout à coup, ça ouvre des espaces vertigineux que vous ne deviniez pas. Et donc là, c'est deux mondes côte à côte. C'est ce village de montagne avec des gens paysans à la génération précédente et devenus ouvriers dans la plasturgie, dans l'industrie plastique, et qui tout à coup sont là, rentrent le soir chez eux, il y a de la neige, beaucoup de neige en hiver, etc. Cette vie assez paisible, il n'y a jamais eu de meurtre là, ça n'existe pas. Et tout à coup, ce garçon qui vient de la ville, qui est acteur et qui détonne dans le paysage, et ce qui réunit les deux, c'est ce meurtre. Et c'est ce choc des deux mondes qui moi, m'a intéressé. Il y a toujours quelque chose comme ça qui vous attrape dans une histoire comme celle-là. Et pour moi, il y a une dimension qui est aussi toujours un petit peu autre dans un fait divers. C'est que ça montre, certes, la nature humaine, le fonctionnement d'une société, etc. Ça montre aussi, et c'est une chose que je trouve passionnante, ça montre aussi le fonctionnement des institutions. Et donc, assez vite, je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un qui a eu affaire à la justice, ne fût-ce que pour un divorce ou de je ne sais quel prud'homme. Il y a toujours quelque chose un peu de la dévastation quand ça rentre dans votre vie. C'est-à-dire, il faut tout montrer, il faut tout dire, tout à coup, ça dure des... Il faut prendre un avocat. Enfin, on est projeté dans un univers extrêmement cruel et dépaysant. Et ce qui m'avait beaucoup frappé dans ce fait divers-là, par exemple, c'est que la famille de la victime, on est dans un village, est aussi dévastée que celui qui est accusé. Parce que tout à coup, on se dit, non, mais c'est peut-être son mari, alors tout le monde regarde son mari de travers, alors les enfants ne savent pas comment se comporter. Il y a aussi exactement ce que tu dis, c'est-à-dire... cette femme est en instance de divorce et son mari a, alors j'écris, une maîtresse. Bon, ça me semble drame. Non, je n'étais pas vraiment sa maîtresse, on allait se marier, etc. Et un mot, vous dérangez un équilibre très subtil et très intéressant. Et pour revenir au fonctionnement des institutions, c'est vrai que quand vous êtes dans les mâchoires de la justice et que vous dites, non, c'est pas moi, je suis innocent, difficile de s'en sortir, hein. Difficile. Et alors, ce garçon a été, cet acteur a été accusé pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce que, pour sa chance, l'ADN match et un autre finalement a été arrêté, dont l'ADN était trouvé sur les lieux du crime. Mais c'est toujours très intéressant de voir ce fonctionnement-là. Comment tout à coup, alors ils appellent ça. Alors je leur dis, mais comment vous avez gardé quelqu'un accusé comme ça pendant 10 ans? Donc le type, il était mis en taule 3 ans. Enfin, c'était pas, il a failli passer en cour d'assises, etc. Et le gendarme, c'est les gendarmes qui étaient chargés de l'enquête, me dit très, très calmement, c'est l'effet tunnel. Donc on en a trouvé un et on fonce. Et je veux bien le croire et je ne le porte pas comme un jugement sur un mauvais travail, mais c'est je trouve passionnant. Je trouve que la justice comme institution et la police, en tout cas les forces de l'ordre, c'est passionnant à voir fonctionner. Et dans les faits divers, il y a toujours ce côté voilà, que je trouve... qui m'intéresse à moi en tout cas, comment marche notre société, comment on s'en débrouille quand on est accusé a fortiori à tort. Donc voilà, c'est deux aspects qui m'accrochent.
Alors il y a deux questions qui me viennent de ce que vous venez de dire, dont j'aimerais bien qu'on partage un peu les réponses. C'est un, comment on couvre une affaire criminelle? Alors on parle fait divers, mais on peut dire aussi une affaire criminelle, une affaire judiciaire. Est-ce que comme dans Les Dévorés, donc, qui est une fiction, un journaliste a comme ça accès à quelqu'un du bureau du procureur qui lui donne des infos en off, est-ce que c'est juste à la télé, est-ce que c'est vrai, comment est-ce qu'on couvre réellement? Et vous m'apprenez qu'en fait les tribunaux, on a tous accès aux tribunaux, qu'il y a une salle des petits pas où on attend le verdict, donc tout ça, ben, nous on le voit à la télé, et vous y avez accès, alors dites-nous.
Vous aussi vous y avez accès, hein.
Oui, mais c'est vraiment, on le sait pas en fait, c'est ça, on le sait pas.
Je vais répondre, je pense que tout le monde complétera, en fait, il y a plusieurs types de sources. Il y a les sources police ou gendarmes. Quand vous êtes en presse régionale, vous faites la tournée des faits divers, parfois plusieurs fois par jour. Vous allez voir aussi les pompiers, donc là, vous avez des infos. Il s'est passé ça aujourd'hui, il y a eu une intervention.
Ils vous donnent les infos assez facilement quand vous êtes journaliste ou pas?
Ça dépend des gens. Il faut connaître. Il y a parfois un passage de relais dans les rédactions aussi, c'est-à-dire un ancien fait diversier va présenter ses sources à un nouveau fait diversier. Et quand vous n'êtes pas en presse quotidienne, mais donc que le lien peut paraître plus distant, au-delà de la police et de la gendarmerie, vous avez évidemment les avocats qui ont toujours un intérêt à... Enfin, qui parlent quand ils ont un intérêt à le faire, quoi. C'est-à-dire quand ils veulent dire, vous voyez, mon client, il est accusé à tort. Ou au contraire, vous voyez, j'aimerais bien que le mise en examen, ça accélère un peu la procédure. Donc ils vont parler, ils vont faire... Et puis, bonne idée de parler, allons-y. Et voilà, il y a d'autres sources. Les procureurs sont tenus par la loi d'informer les journalistes, mais aussi le public. Mais par contre, les procureurs, c'est vraiment... c'est le jour et la nuit selon le procureur, quoi. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai dû oublier des choses.
Non, mais ça dépend des personnalités aussi. Enfin, il y a des gendarmes qui ne vont pas parler du tout... Faut savoir perdre du temps aussi, des fois, en fait, c'est parler des résultats du club de foot d'à côté, parce que ça noue un lien, en fait, tout simplement, et petit à petit, on arrive à se connaître et parfois avoir des petits trucs en plus, mais après, sur l'instantanéité, encore une fois, on a, heureusement qu'on n'a pas accès à tout le dossier aussi, quand même. Qu'il y a encore un secret de l'instruction et qu'il faut préserver.
Bah non,
aussi.
Pas heureusement du tout. Que
et donc, j'imagine qu'il y a une responsabilité en tant que journaliste quand vous écrivez vos articles. Là, je parle vraiment aux journalistes, pas forcément aux écrivains. Quand vous écrivez un article par rapport à... Bon, vous citez, donc vous faites dire à la personne qui vous a donné les infos, peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que les sources sont parfois anonymisées. Quel est justement le degré de responsabilité que vous avez de faire passer l'information que vous venez d'avoir, de savoir si elle est juste ou pas, si elle n'est pas subjective, si ce n'est pas dans un intérêt particulier?
De toute façon, on est toujours tenu pour responsable, donc quelle que soit la chose qu'on écrit. Non, mais ça, c'est les règles de base, c'est vérifier, recouper l'information, être sûr et bétonné, sûr et re-sûr et trois fois sûr qu'on peut écrire ça. Et ensuite, c'est question de dosage par rapport aux enjeux portés par telle ou telle affaire, l'implication qu'elle peut avoir... Évidemment qu'il y a des deals, évidemment que chacun de nous, à mon avis, s'est retrouvé dans la situation d'appeler une source et de dire, voilà, moi, je sais, c'est béton qui va se passer ci, ça, ça et ça, ou c'est ça. Et la source qui dit, bon, alors effectivement, tu n'es pas trop loin du truc, essaye d'écraser 48 heures et ne dis rien, parce qu'on a encore des choses à faire. Enfin, ça a dû t'arriver. Et une fois qu'on aura fait, bah, comme tu es le premier à nous avoir appelé, on essaiera de faire en sorte de te donner de la matière pour nourrir tes papiers, tes enquêtes, etc. Ça, c'est un jeu subtil presque de traitement de sources. Et ça se fait, effectivement, comme disait Olivier, avec un minimum d'expérience, de bouteilles et surtout de répétition. Tout ça, c'est l'habitude qui forge. Hein, quand tu dis qu'il faut avoir à parler des résultats du club de foot local, alors moi, je suis le seul Bastiais qui n'en a strictement rien à faire du football, mais j'essaie de discuter d'autre chose. Mais 80% du métier dans ces moments-là, c'est d'essayer de faire de l'atmosphère, de l'ambiance, de discuter avec les gens pour se montrer soi, d'ailleurs, tel qu'on est, et pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour se couper systématiquement en faisant fi d'à peu près toutes les règles de déontologie ou de morale, et qu'on n'est pas des charognards, on n'est pas des charognards.
Mais c'est vrai que quand j'ai fait l'inconnu de la Poste, pareil, il y avait je cherchais évidemment des informations, etc., et Nantua, donc, est la ville à côté de ce village, n'est pas beaucoup plus grande. Et donc, pour vous donner une idée, quand on dit « tu es muté à Nantua et qu'on est gendarme », c'est que ça ne va pas bien dans votre carrière. Donc, il y avait une caserne un peu raplapla, comme ça. Et donc, ce fait divers n'avait pas fait non plus tellement d'effrayer la presse nationale. Et donc, je vais voir les gendarmes. Et il y en a un avec lequel je sympathise. Il s'embêtait quand il venait d'être muté disciplinaire. Donc il s'embêtait, il me dit « bon, on va aller boire un verre » et on sympathise et il me donne des informations. Et le type était marrant, c'est-à-dire qu'à la fois, il était dans ce coin-là, il sortait en boîte de nuit. Enfin, c'était un personnage, voyez ce que je veux dire, un gendarme qui avait une existence, une vie, un machin. Et donc je voyais que petit à petit, on se jaugeait et se disait « oh ben, ça me ferait bien plaisir d'être un personnage de son livre, moi ». Et donc, il se voyait déjà en bonne place, vous voyez, le gendarme, machin, qui mène l'enquête, etc. Et je commence à écrire le livre. Et c'est vrai que mettre... Alors, je ne sais pas si vous aimez les séries télévisées ou les choses comme ça, mais mettre un gendarme comme personnage qui va courir tout au long du livre, comme fil rouge, je me suis dit, ça va banaliser le livre. Et je me suis dit, je ne vais pas le faire... Je vais mettre tout le monde aura sa place, mais il n'y aura pas une personne qui va porter le livre. Donc je finis le bouquin, je lui amène, il était horriblement déçu. et je me suis dit, si j'avais dû suivre au jour le jour, j'aurais jamais rien eu.
Alors, peut-être une des dernières questions, c'est revenu assez régulièrement dans vos interventions, c'est que le fait d'y avoir passionné aussi par rapport à ce que ça dit sur la société. Et aussi par rapport à ce que ça peut changer sur la société. On en avait parlé, donc les médias couvrent les faits divers selon un peu aussi un angle qui peut être aussi commercial, mais aussi par l'intérêt que peut apporter son public. Qu'est-ce que justement, quel est cet intérêt que le public peut avoir pour des histoires comme celle-là ? Ça veut dire que quelque part, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Est-ce que c'est ça qui fait que les gens s'intéressent à ça ? Plus qu'un James Bond, comme on le disait, parce que James Bond, c'est de la fiction, mais est-ce que c'est parce que vraiment, ça peut être, c'est toujours le voisin dont on ne soupçonnait absolument pas le fait qu'il soit capable de commettre
Je pense qu'il y a des affaires criminelles qui, parfois, ont très peu d'écho et d'autres qui en ont beaucoup. Parfois, on ne comprend pas la différence. Parfois, c'est juste parce que l'actualité, il ne se passait rien et une affaire va émerger et tout le monde va se passionner dessus. Souvent, le point commun, c'est, j'ai repéré surtout deux choses, c'est quand il y a du mystère, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas immédiatement l'identité du coupable, la clé de l'énigme. Quand l'affaire dure, alors évidemment l'exemple le plus emblématique c'est l'affaire Grégory, mais il y en a d'autres. Et aussi, on va peut-être s'intéresser davantage aux affaires où on peut s'identifier aux gens.
Oui.
Par exemple, quand les victimes sont trop marginales, sont des quasi-SDF ou des gens qui vivent dans leur camion avec leur chien, même si le mystère dure des années et des années, une disparition par exemple, ça ne va pas du tout imprimer dans...
L'affaire Émile Louis.
Dans l'opinion publique. Exactement.
Des jeunes femmes de l'assistance publique étaient tuées et violées. Et c'est vrai qu'on a mis un temps fou, et c'est le personnage d'Émile Louis qui a fait émerger l'affaire, plus que ses victimes.
Absolument.
Et qui continue de traumatiser Lyon aussi, encore.
Oui, tu as vécu. Et dans l'affaire Nordal-Lelandais, au moment où on a vu que Nordal-Lelandais était impliqué dans deux crimes très différents, il y a eu une quarantaine de disparitions qui ont émergé dans les médias, dans la région Rhône-Alpes, pour dire, et si c'était Nordal-Lelandais? Et toutes ces affaires-là, aussi mystérieuses les unes que les autres, étaient passées inaperçues au moment où elles étaient arrivées. Mais à partir du moment où on s'est dit, c'est peut-être un tueur en série... Eh bien, ces gens qui étaient des marginaux, qui étaient des personnes atteintes d'Alzheimer, qui étaient des vieux, dont la disparition indifférent, enfin, tout le monde s'en foutait, eh bien là, tout d'un coup, ça a pris un intérêt. Donc, je pense que le profil des victimes et le mystère sont les deux choses communes aux affaires qui marquent vraiment l'opinion publique.
Vous êtes d'accord?
Moi, je pense que les affaires... Je vais essayer de conclure rapidement. Une affaire criminelle paroxystique, c'est-à-dire vraiment celle qui... De manière générale, enfin, je ne vais pas faire de grands mots, mais celles qui vraiment émergent sont des précipités d'époque, assez souvent, et disent quelque chose de l'état d'une société, non seulement à l'époque, mais souvent à travers... Moi, j'ai l'anecdote, quand j'ai enquêté, parce que j'ai enquêté, moi, je suis journaliste, je ne prétends pas être écrivain, et je ne suis pas convaincu de le souhaiter, d'ailleurs. J'ai enquêté pour ce bouquin, donc... Le personnage principal finit guillotiné en 1888. Alors, je raconte toujours l'anecdote. Et en enquêtant pour essayer de me renseigner sur des documents dans nos archives, et puis comme il a passé une grande partie de sa vie, enfin de, pas de sa vie, mais avant qu'il soit arrêté, il a passé 4-5 années au maquis, eh ben, forcément, on ne documente pas une cavale. Ce n'est pas le principe de la cavale, a priori. Si vous voulez. Quand vous partez, vous échappez, vous pensez bien à tenir un journal, j'ai vu tel, à telle heure. Et donc, il y avait des tas de moments où je ne savais pas ce que ce mec avait bien pu faire de sa vie. Et donc, moi, je crois à la cartographie. C'est une vocation militaire contrariée. Donc, je regardais. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était là. Il a réapparu là. Donc, il a dû passer par ce... Et j'ai enquêté comme ça. J'ai fait les sentiers, j'ai fait les chemins, je suis allé en montagne, etc. Et je voulais me documenter sur un village où j'étais sûr qu'il était passé. Et on me dit, appelle un tel, c'est un vieux berger à la retraite qui a passé sa vie dans ces montagnes, il connaît très bien. Donc j'appelle le monsieur un soir, je m'en souviendrai, mais toute ma vie, parce que je pense que c'est l'anecdote qui résume le plus, malheureusement, ce que peut être la Corse. Et je l'appelle et je lui dis, voilà monsieur, je me permets de vous appeler, je suis journaliste. Ah oui, on m'a déjà appelé pour me dire que vous alliez m'appeler. Bon, ben, je vous passe les salam aleik, j'ai passé par quatre intermédiaires. L'autre me disait, tu dis pas que c'est moi qui t'ai donné le numéro, mais mon cousin le connaît. Bon. Et je dis, voilà, je me permets de vous appeler parce que je fais... Il me dit, ah oui, vous faites un livre sur le bandit Rockin. Il faut savoir que c'est une histoire qui dans la région de Sartène, est encore assez... Et je dis oui, mais alors je vous rassure tout de suite, je ne veux pas du tout parler du bandit, j'ai tout ce qu'il faut, tout est documenté, j'ai les archives judiciaires, j'ai tout compilé, il n'y a pas de difficulté, je veux simplement que vous me parliez du village, la fête patronale. Alors c'est ça aussi enquêter, c'est se renseigner sur les minuscules détails qui font que comment s'organisait la vie au champ, etc. Puis je voyais que ça accrochait pas. J'étais au téléphone, je voyais qu'il était réticent, et puis au bout de 10 minutes de conversation, il finit par me dire... Florence, je crois que ça fait 17 fois qu'elle entend l'histoire. Il finit par me dire, non, écoutez, monsieur Albertine, je préfère pas vous parler. J'y dis, ah bon, alors, comme j'étais en Corse à l'époque, je dis, monsieur X, Il y a un problème, j'ai écrit sur quelqu'un de votre famille, peut-être un truc qui vous a... Il me dit, non, c'est pas vraiment ça. Pourquoi vous voulez pas me voir? Parce que je vous demande rien de transcendant, en fait. Je vous demande de parler de l'histoire de votre village. C'est quoi le problème? Et là, je rappelle, Xavier Roquigny est guillotiné le matin du 5 septembre 1888. Et là, le vieux, j'entends la voix qui change. Il avait dû mettre la main autour de son... de son téléphone comme ça, il dit « C'est-à-dire que cette affaire par ici, c'est encore un peu chaud. Bon. » Là, je me suis dit « Ok, on n'est pas sorti de l'auberge. » Donc j'ai dit « Ok, très bonne soirée. » J'ai raccroché, j'ai pris une verveine et je suis allé me coucher. Je me suis dit « Bon, on ne va pas en sortir. » C'était 136 ans plus... Voilà, 135 ans plus tard. Mais c'était encore un peu chaud. Donc ça dit aussi quelque chose d'un endroit, un fait divers.
Alors, juste pour revenir un peu sur les dévorés dernière fois, donc vous restez sur la fiction, a priori, c'est quand même plus confortable.
Non, j'avais besoin d'une respiration, et puis les choses se sont faites comme ça, mais je continue à Marianne, où je travaille, à m'occuper d'affaires criminelles, ouais. Donc je reviendrai quand j'aurai un peu le temps. Pour l'instant, j'ai pas le temps, mais parce qu'il faut un peu de temps, mais je reviendrai vers
Je si permets juste de faire un truc. C'est, on est quand même dans un truc de fait diversier. Il avait besoin d'une respiration, donc il a écrit un polar semé de cadavres. Oui. Mais on est tous un peu, malheureusement un peu comme ça.
Sa manière de prendre du recul, penser à autre chose. Tiens, je vais les tuer moi-même cette fois.
Et en plus des cadavres qui sont bien cadavrés, quoi.
Qui sont assez mutilés, mais maintenant ça va mieux. Maintenant c'est passé. Je vais pouvoir revenir à d'autres cadavres.
Mais c'est vrai que vous demandiez ce qui se passait sur les... qu'est-ce qui accroche l'intérêt du public pour tel ou tel fait divers. C'est vrai que suivant les époques, l'attention se porte sur tel ou tel genre de fait divers. Ce que je trouve très frappant aujourd'hui, c'est qu'il y a ce que tu évoquais, qui sont les fameux... Je vais dire le mot, vous êtes... Ah oui, les cold cases. Donc là, c'est devenu le grâce aux avancées scientifiques, etc., on se retrouve à résoudre des affaires qui piétinaient depuis des années, voire des dizaines d'années. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Et ce que ça a aussi de particulier, c'est que des cold cases, il y en a, tu secoues un platane. Hein, mais c'est vrai que ce qu'il y a de particulier, c'est que les cold cases qui vont revenir et être dirigées vers les sections qui aujourd'hui s'occupent spécifiquement de ce type de dossier vont être ceux, et je trouve ça assez spécifique à l'époque, vont être ceux que les familles ont portés, en fait. C'est-à-dire que ça met en lumière cette mère qui, depuis 15 ans, 20 ans, a dit je trouverai qui a assassiné ma fille, cette sœur, cette bande de copines qui n'ont jamais lâché. Et il y a des faits divers qui, pour X ou Y raison, les gens ont moins suivi, ou la vie est compliquée parfois, et c'est comme ça. Mais vous avez tous vu ces figures familiales, souvent, qui disent « j'ai jamais lâché, toujours je l'ai fait », etc. Et c'est ces cold cases-là qui, en fait, finalement, se retrouvent. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une identification, si j'ose dire, à ces familles comme ça qui continuent cette recherche. Et je trouve ça assez particulier et assez beau. C'est vrai que quand il y a eu, vous savez, Nicolas Sarkozy avait dit on va mettre les victimes en avant, etc. Et c'est vrai que ça paraissait curieux. Et en fait, cette dimension-là, aujourd'hui, je trouve, est devenue très particulière avec cette recherche des cold cases. Cette place des victimes a vraiment changé sur qui fait la route avec ses propres victimes. Et c'est assez... je trouve que c'est assez émouvant sur qui fait quoi. Et on voit souvent des dames aux cheveux blancs qui disaient « ma fille a 18 ans, etc. » et ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle cherche et qu'elles n'abandonneront jamais. Et je trouve que c'est c'est assez particulier à cette époque-ci.
On va devoir conclure par cette jolie phrase que vous avez...
Il n'y a pas des questions du public ?
Alors, je sais... On peut.
On doit.
On doit.
Vous avez pas eu elle n'a pas eu l'instruction, qu'est-ce qu'on fait ?
Allez-y.
Vous avez des questions ?
Je crois qu'il n'y a pas de rencontre après. C'est juste pour savoir s'il y a besoin de la salle après ou pas.
Il y a forcément des questions. Attendez, pas si vite. attendez. Il y a un micro, il y a une personne qui arrive avec un micro. Voilà. C'est ici devant, une dame que j'ai juste en face de moi. Allez-y, chantez, chantez.
J'aimerais savoir si au cours de votre carrière, il vous est arrivé d'être condamné.
Dans le micro, dans le micro.
Comme ça ? S'il vous est arrivé d'être condamné pour les propos que vous avez tenus, écrits, etc. Est-ce que ça arrive vraiment dans la vraie vie, quoi ? Dans votre vraie vie de journaliste ?
Non, pas nous.
Jamais.
Non, mais c'est miraculeux. Hein.
On est très prudent.
Oui, on s'est regardé les uns les autres par la barbichette, lequel. Mais on fait attention, moi, maintenant.
D'accord.
C'est-à-dire que le. Oui, c'est pas.
Merci.
Y a-t-il d'autres questions ?
Oui, bonjour. Quand vous dites que vous êtes imprégné, justement, quand vous faites vos livres, etc., est-ce que vous avez systématiquement une bulle ? Là, vous dites que vous avez besoin de faire, vous avez fait une pause pour faire autre chose. Est-ce que lorsque vous faites vos enquêtes, etc., vous avez justement un sas ou quelque chose qui vous permet de pouvoir faire une coupure et de vous dire psychologiquement, il faut que j'arrête, il faut que je fasse une pause, il faut que...
Moi, c'était la boxe.
Toi ?
Mais non, enfin, c'est quand vous êtes dans le quotidien, en fait, vous êtes pris dans la machine, en fait, et très sincèrement, ça envahit. L'affaire Nordal-Delandais et d'Arthur Noyer, ça a été énorme pour moi, parce qu'en plus de ça, c'est ma première grosse affaire qui avait un retentissement national en plus. C'était concrètement, enfin, comment j'ai fait pour me sortir, entre guillemets, enfin, pour respirer, c'était heureusement, c'est parce qu'en fait, je travaillais à Bourges, mais ma famille est ici, et c'est. En revenant voir ma compagne, en fait, tout simplement, j'ai essayé de respirer. En revanche, je lui ai pris la tête énormément parce que je l'ai saoulé concrètement avec Arthur Noyer pendant des mois et des mois, quoi. Mais c'est juste... Après, il y a cette longueur aussi, il faut arriver jusqu'au procès. Et après le procès, ben, des fois, il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a des... Ben, tous les acteurs vont s'exprimer. Et ça permet, là aussi, en fait, de prendre du temps, encore une fois, et d'expliquer, de préciser parfois certaines choses qu'on n'avait pas vues de prime abord, en fait, qui étaient dans le dossier, justement. C'est pour ça que je parlais du secret de l'instruction tout à l'heure. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va pouvoir mettre des points finaux, en fait, à une histoire et respirer à la fin, en fait.
C'est vrai que le terme revenait dévorer, etc. C'est vrai que quand on est dans un... Fait divers. Alors, première chose à laquelle résister, chercher soi-même quel est l'assassin. Alors ça, c'est fatal.
Le colonel Moutard.
Oui, c'est ça. Parce que vous vous impliquez trop et c'est vrai que après, c'est très compliqué si vous avez un point de vue. Je suis sûr que c'est elle, je suis sûr que c'est lui, etc. C'est terrible parce que c'est pas votre boulot, vous n'avez pas les moyens de faire une enquête, etc. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Mais c'est vrai que je me souviens de... la première fois que je suis allée dans ce village, au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'était pas cet acteur qui était l'assassin. Vous avez compris ma démarche. Et donc, je me souviens, c'était la nuit, il neigeait. Et j'étais dans ce village, mais si ce n'est pas lui, l'assassin est toujours là. Et j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je hâtais le pas. Et donc, à un moment, il y a une porte qui s'ouvre. J'ai fait un bond de 10 mètres. Et alors je dis à Lina, bon, je suis journaliste, je fais un reportage sur le meurtre qu'il y a eu, etc. Alors elle me dit, bon, j'aime pas les journalistes, mais enfin, elle pourrait m'offrir un café quand même. Là, c'est le truc. Et là, j'ai quand même une petite carte dans ma manche. C'est qu'elle me regarde, elle me dit, attendez, je vous connais, vous êtes de la télé. Je dis, non, pas du tout. Elle dit, je vous connais, vous êtes Florence Artaud. Je dis, non. Elle est déjà morte. Et donc, après, au bout d'un moment, elle dit, ça y est, viens voir. Elle appelle son mari. Viens voir, il y a un otage devant la porte. Alors c'était la grosse aubaine. Et du coup, ça m'a changé les idées. Mais c'est vrai. Alors, elle m'a dit, on va boire une gentiane. J'ai dit, allez, va pour la gentiane. Mais c'est vrai que des fois, on est pris par le... Oui, par le... Par l'atmosphère, l'affaire, etc. Donc,
Ce qui est dingue, c'est que je ne m'attendais pas à autant d'humour pour un sujet qui est quand même très... qui peut être très...
Mais nous sommes extrêmement drôles.
J'ai pas dit vous.
On adore rire.
On adore se fendre la pêche.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'on va devoir rendre la salle. N'hésitez pas. Bon.
Si,
il si, y en a une là.
Si, si, vous avez acheté le...
Alors, justement, par rapport à votre actualité littéraire, vous remarquerez sans doute que c'est ici et ailleurs qui a été donc votre dernière publication, votre dernière actualité littéraire en début d'année, je crois en février 2023. Et on a parlé beaucoup de L'Inconnu de la Poste, qui était d'une publication avant. Donc, vous pourrez retrouver donc, les auteurs à leur stand de dédicace. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas encore.
L5, je crois.
Voilà. Bon, ben, vous trouverez.
C'est un jeu de piste. C'est une activité qui est proposée dans le cadre du festival.
Je vous invite à vous faire dédicacer ces trois livres qui sont vraiment, vraiment super. Et merci, Olivier, d'avoir été là, d'avoir nous avoir présenté ce témoignage très émouvant et très intéressant. Merci à tout le monde.
Et merci à vous.
Merci à vous tous.